Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un très grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission littéraire sur Radion. Il est 11h passé de quelques minutes, c'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous allons vous proposer la première partie du compte-rendu du Salon du Livre Régional de Chalot qui s'est tenu le 22 février dernier. Alors si vous ne connaissez pas Chalot, je puis vous dire que c'est un charmant petit village qui est traversé par une très jolie rivière qui elle-même porte le nom de Chalot. Chalot se situe dans le département de la Nièvre, mais si nous nous sommes si intéressés à ce petit village, c'est que s'y trouve une association qui regroupe 23 membres et qui s'appelle l'association Chalot au fil des pages, qui a notamment créé la bibliothèque de ce village, qui tout de même dénombre 1500 livres. Cette association est présidée par Frédéric Bigorgne et tout au long de l'année, Chalot au fil des pages organise des rencontres, des ateliers d'écriture, travaille en collaboration avec le réseau des bibliothèques du Morvan. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est que chaque année, courant février, l'association Chalot au fil des pages organise un salon du livre régional. Et en cette année 2026, ce troisième salon du livre régional a eu lieu le dimanche 22 février dernier. Nous y avions été invités et nous y avons d'ailleurs été chaleureusement accueillis. Et aujourd'hui, nous allons vous faire entendre quelques-uns des auteurs invités à ce salon, notamment le journaliste du Journal du Centre, Bertrand Hiverneau, qui a signé en 2023 aux éditions de Boré un essai judiciaire intitulé « Le dentiste du Morvan » avec ce sous-titre « Un fait divers glaçant sur fond de désert médical ». Il revient notamment sur ce dentiste hollandais qui avait été recruté par la ville de Château-Chinon, qui s'était installé dans la capitale du Morvan en 2008, jusqu'à ce que, malheureusement, toute une série de plaintes de patients qui avaient eu des bouches abîmées viennent lancer une affaire judiciaire qui a conduit à un procès assez retentissant en 2016. On y reviendra au cours de cette émission aujourd'hui sur Radion avec donc Bertrand Hiverneau. Mais nous allons ouvrir notre wagon livre de ce samedi 4 avril 2026 avec Philippe Berthelangereau. Philippe Berthelangereau qui signe l'intégralité du texte d'un hors-série de Vent du Morvan consacré à l'alimentation dans les fermes du Morvan. Ce hors-série est toujours disponible en maison de la presse, en librairie, mais vous pouvez également le commander via le site internet du magazine associatif Vent du Morvan. Philippe Berthelangereau signe donc un très très beau dossier, varié, riche, illustré de superbes photographies et sans tarder, je vous propose qu'on en découvre un peu le sommaire et que nous fassions connaissance avec Philippe Berthelangereau que nous avons rencontré et enregistré le 22 février dernier lors du troisième salon du livre régional de Chalot.
Voilà, je m'appelle Philippe Berthelangereau et je vis à Saint-André-en-Morvan, qui est la commune d'origine de ma famille maternelle. Donc j'ai décidé à l'âge de 23 ans, en 1977, de m'installer dans ce hameau daté de la commune de Saint-André-en-Morvan. Et puis voilà, j'ai participé à une association qui s'appelait à l'époque La Poêlée, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui nous a permis de faire beaucoup de collectage, notamment du collectage musical. Et moi, je me suis intéressé très vite à tout ce qui concernait les traditions agricoles, les traditions forestières, tout ce qui faisait le quotidien de la vie des paysans du Morvan autrefois et puis jusque dans les années 80, 90.
Donc voilà. En fait, Philippe Père de Langerot, depuis l'âge de 17 ans, avec un petit magnétophone à cassette, vous avez enregistré des Morvandiaux, des gens du terroir, des femmes, des hommes, des paysans qui vous ont raconté leur quotidien, leurs difficultés, leurs souffrances, leurs espoirs, leur mode de vie.
Oui. Puis alors.
Alors sur tous les aspects. Travaux agricoles et forestiers, galvachés, moulins, véhicules agricoles, joues et attelages, métiers de village, etc. Oui. Être passionné.
C'est assez éclectique, assez divers, oui. Et ben finalement, quand on discute avec les gens du pays, les anciens du pays, et ben on se rend compte que ce sont des mémoires, et comme toutes les mémoires, bon, ben, il y a des aspects différents, et donc je me suis petit à petit, année après année, intéressé à des sujets divers. Et là, j'ai entrepris une nouvelle recherche sur les vanneries, la vannerie domestique, c'est-à-dire la vannerie qu'on fabriquait dans les familles. Pour faire des paniers ou des hottes ou des cabas, comme on dit, pour faire lever le pain, la pâte à pain. Et donc là, j'ai entrepris ce travail-là dans la perspective de faire une publication un peu plus tard. Et donc, les premiers résultats sont intéressants. Il y a encore pas mal de gens qui sont capables de parler de cette vannerie domestique qui était fabriquée à la veillée, qui était fabriquée par des paysans avec les moyens du bord, du noisetier, des côtes de chêne, d'osier, etc. Voilà.
Alors, il est encore d'actualité. On le trouve encore dans les librairies, dans les kiosques. Il remonte à l'été 2025. C'est un hors-série de Vendu Morvan, sublime magazine associatif dont vous êtes un des initiateurs. Oui, hein. Et ce numéro hors-série Vent du Morvan présente un ensemble d'articles exclusivement rédigés par Philippe Berthe Langerot sur le thème « Se nourrir dans les fermes du Morvan ». Et effectivement, Philippe Berthe Langerot, vous avez étudié alors, tous les aspects de la nourriture en Morvan. Ça va des légumes, des ustensiles de cuisine, les boissons. D'ailleurs, en parlant des boissons, Philippe Berthe Langerot, il y a peu de vignobles dans le Morvan. Le Tannay et un petit peu le vignoble de Vézelay, à supposer que Vézelay soit vraiment dans le Morvan. Mais alors là, débat.
Ben, ce sont les bordures du Morvan, c'est-à-dire le sol argilo-calcaire, et qui a connu vraiment un vignoble assez développé sur les communes, comme vous dites, de Vézelay, Fontenay-près-Vézelay, Tarroiseau, etc. Puis en descendant, sur Neufontaine, Vigne-le-Haut, comme ça l'indique. Ces régions, Magny-l'Orme aussi, et puis en descendant jusqu'à Saint-Péreuse, Saint-Péreuse qui est dans la région de pas très loin de Château-Chinon, dans toutes ces zones périphériques du Morvan où le sol était argilo-calcaire, on a pu cultiver de la vigne. Alors évidemment, c'était de la vigne, comme on dit, du vin à boire avec trois mains, c'est-à-dire deux mains qui s'accrochent à la table et puis une main qui tient le verre de vin, parce que évidemment, c'était plutôt de la piquette. Il y a Michel Barbotte à Ourou qui a été marchand de vin pendant sa carrière, appelait ça ces vins qui faisaient autour de 8-9 degrés. Il appelle ça des vins de soif. Effectivement, c'était des vins qu'on buvait pendant les travaux d'été, les battages, etc. Des vins qui montaient pas à la tête, quoi, et comme les vins qu'on peut connaître aujourd'hui à 13 ou 14 degrés.
Alors vous, Philippe, vous adoriez, jeune enfant, aller à Saint-André-au-Morvan chez les grands-parents. Vous étiez plutôt un petit garçon de la ville ?
Ah ben oui, moi j'ai toujours, jusqu'à l'âge de je me suis installé à Saint-André à l'âge de 23 ans, en 77. Moi j'étais un enfant de la ville, oui, puisque mon père était professeur et il a enseigné notamment à l'étranger, en Autriche et en Espagne. Et le hameau daté avec ma famille maternelle, mes grands-parents que j'ai bien connus, surtout ma grand-mère, qui est morte en 1986, eh bien c'était le retour ma mère disait, on va au Morvan. C'était le retour au Morvan. Et là, donc, on passait l'été. Et moi, j'ai connu Athée encore vivant avec 8-10 petites exploitations agricoles qui se sont éteintes les unes après les autres, puisqu'il n'en reste plus qu'une actuellement. Mais tout ça, c'est vrai qu'avec le patois, avec les travaux agricoles qui se faisaient encore quand j'étais vraiment gamin avec les chevaux, puis après le tracteur. Mais tout ça, ça m'a donné envie de me pencher sur ces travaux agricoles, les travaux paysans.
Alors, il faut parler de la pomme de terre, parce que bon, la terre du Morvan est une terre qui est pauvre. On y a vécu longtemps chichement, dans des conditions et des habitats très peu confortables et peu chaleureux. La pomme de terre a vraiment permis une révolution alimentaire.
Ah oui.
Qu'en fait, on ne mangeait pas grand-chose.
On mangeait très peu. Vauban, sous le règne de Louis XIV, disait qu'il se demandait comment une population qui était si mal nourrie pouvait persister. Et puis ça faisait, effectivement, ça faisait des mauvais soldats. Hein, des gens qui étaient mal nourris faisaient de mauvais soldats. Des gens qui n'étaient pas vraiment développés physiquement, enfin bref, c'était une nourriture avant l'arrivée de la pomme de terre. Alors, la pomme de terre est arrivée très lentement dans le Morvan et elle a commencé à se développer à partir du 19e siècle, puisque les curés dans les paroisses considéraient que c'était un aliment, un tubercule qui n'était pas consommable, puisqu'il poussait dans la terre et que la terre, c'était le domaine de l'enfer. Alors que les légumes qui poussaient au-dessus de la terre, eux, étaient consommables. Et donc, alors, il y a eu des réticences, des superstitions à propos de la pomme de terre. Et puis finalement, c'est devenu un aliment essentiel dans les fermes du Morvan.
Alors, il y a un animal essentiel, c'est le cuesso.
Le cuesso.
Alors, qu'est-ce que le cuesso?
Ah, ben, le cuesso, c'est le cochon, hein, le cochon qui était élevé soit tout seul, soit à plusieurs, suivant l'importance des fermes. Mais le cuesso, c'est vrai que ça a été l'apport de protéines, hein, pour les paysans, c'est-à-dire qu'on tuait le cochon, on en tuait, suivant l'importance de la famille, un, deux ou trois dans l'année. Et cette viande était mise en saloir pour une partie, et puis d'autres étaient traitées pour faire des pâtés, des andouilles, etc. Et puis effectivement, le fameux jambon, le jambon sec du Morvan, hein, qu'on consommait notamment pendant les travaux d'été, les foins, la moisson, etc. C'était vraiment un animal très important pour la ferme.
À l'instant, Philippe Berthelangereau, enregistré le 22 février dernier lors de la troisième édition du Salon du Livre Régional de Chalot. Je rappelle que Philippe Berthelangereau signe le hors-série Vent du Morvan consacré à l'alimentation dans les fermes du Morvan, un magazine associatif toujours disponible en librairie ou en maison de la presse, dans les kiosques ou sur commande auprès de Vent du Morvan à Anneau via aussi le site internet de ce magazine associatif. On va marquer une première virgule musicale dans notre wagon livre. Je voudrais aussi glisser une information importante concernant Vent du Morvan. Vent du Morvan organisera la prochaine fête du livre et des médias à Anneau. C'est à noter donc dans vos agendas. Ce sera le samedi 18 juillet prochain de 10h à 18h à la salle des fêtes et également sous la grande halle de l'ancienne capitale des Galvachés, salon du livre d'Anneau. Donc repris et organisé cette année par Vent du Morvan. Tout de suite, pause musicale avec Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. On se retrouve dans quelques minutes avec Philippe Berthelangereau. C'est Wagon Livre sur Radio et nous sommes ensemble jusqu'à midi. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you.
Lovers and bees, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call, and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, might be the girl of your dreams. There's no need to hide if you're into me, cause I'm into you quite intimately. And maybe one night
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dans ce hors-série de Vent du Morvan, dont vous signez tous les articles, se nourrir dans les fermes du Morvan, ce qui est superbe aussi, ce sont toutes les photographies,
oui.
Notamment tous ces jambons qui sont emballés, protégés contre les mouches et
oui.
Qui sont pendus au plafond, aux charpentes de la salle à manger.
Voilà,
par
voilà, qui faisaient partie un peu de la famille, hein, on les mettait là, et surtout on les surveillait, et puis comme vous dites, on les protégeait avec une toile fine. Pour leur éviter d'être contaminés par les asticots, les
ou que
mouches.
Les mouches aillent pondre.
Oh ben, oui, tout à fait. Dessus.
Alors, un petit mot sur Villa Pourson, dont le toponyme est étroitement lié avec l'élevage du porc.
Oui, on le dit. Hein, on le dit. Bon, maintenant, l'étymologie, c'est toujours une science un peu fantaisiste. Pas toujours, hein, loin de là. Mais Villa Pourson, il y a aussi un village qui est proche de Villa Pourson, qui s'appelle Pré-Porcher. Donc voilà, maintenant, est-ce que si tous les villages où on a élevé des porcs faisaient référence aux cochons, on en aurait beaucoup plus, quoi.
En tout cas, il faut vraiment être très très pauvre pour ne pas avoir un porc.
Oui.
Dans les environs de sa chaumière ou de sa petite ferme.
Oui, parce que vraiment, il faut vraiment être très pauvre parce que, bon, le cochon, en général, s'achetait sur une foire quand il était sevré, quand il était petit, à 2 ou 3 mois. Et puis, alors après, bon, il faut le nourrir, hein. Alors, évidemment, il y avait les fermes qui étaient capables de le nourrir avec les fameuses truffes. Hein, qu'on faisait cuire dans le fourneau, comme on dit. Et on le nourrissait également avec de la farine de céréales qu'on produisait sur la ferme. Et puis, parmi les plus pauvres, on emmenait le cochon à la glandée, c'est-à-dire qu'on l'emmenait dans les forêts pour manger des glands, pour manger les faines qui sont la graine du hêtre. Donc, bon an, mal an, toute famille, même une veuve, même le plus pauvre des pauvres pouvait se permettre quand même d'élever un cochon.
Alors vous avez établi, vous nous offrez un large dossier sur les céréales, le froment, le blé, le seigle, l'avoine, l'orge, le blé noir ou le sarrasin. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement documenté, oui. très riche. Mmh. Ce qui est important aussi, c'est qu'on mange, on mange des kilos de pain.
Ah oui, on mange beaucoup de pain. Le pain est sacré. Hein, le pain est vraiment sacré. Pourquoi sacré? Ben parce que le pain, jusqu'à son arrivée sur une table, d'ailleurs, quand on entamait une miche, il y en a beaucoup qui faisaient un signe de croix avec le couteau, hein, pour signifier qu'il avait une valeur pratiquement chrétienne, hein, et le corps du Christ, hein, pour ceux qui croient. Et le pain était surtout respecté parce qu'il avait demandé une somme de travail énorme. Hein, tout au long de l'année, à partir les labours, les semailles, après il fallait le faucher, le battre, enfin toute cette série de travaux pour arriver à de la farine qu'on travaillait pour faire le pain, tout ça avait demandé une somme de travail phénoménale dans une famille, et donc on respectait le pain.
Alors le pain, bien sûr, est très important. Alors il y a le lait et tous ses dérivés, bien sûr, la crème, le beurre, avec là aussi beaucoup de photographies, d'ustensiles, d'objets. Qu'appelle-t-on des chatteries?
Des chatteries. Eh bien, les chatteries, c'est des gourmandises et des choses.
Alors, que sont les daguenelles?
Ah, alors, les daguenelles, ça, on suivant les secteurs du Morvan, il y a des endroits où on dit daguenelles et des gnelles, enfin, suivant les différences de patois du Morvan, mais qui désignent toujours des petites poires, hein. Alors, souvent, c'était des poires de la variété Piotto, hein, c'est une vieille variété locale, des petites poires, et que l'on faisait, alors on les faisait, quand le pain avait été cuit, évidemment le four restait chaud pendant un certain moment, voire peut-être plusieurs jours, et là on étalait sur la sole du four, on étalait toutes ces petites pommes qu'on avait récoltées, alors on les laissait se déshydrater jusqu'à la prochaine cuisson, on les enlevait, on faisait cuire le pain, et une fois que le pain était cuit, on remettait ces petites daguenelles de façon à ce qu'elles soient complètement déshydratées. Et elles se conservaient plusieurs mois. Et quand on voulait les réutiliser, on les réhydratait en les plongeant dans de l'eau, hein, de façon à les faire gonfler comme une éponge, hein, ce qui est sèche et puis que l'on réhumidifie avec de l'eau. C'était le même procédé et on les mangeait, les poires au vin, voilà, des choses comme ça, comme des desserts. C'était des desserts évidemment très, très frugaux, très, très simples, mais ça permettait de, voilà, comme vous dites, de quelques chatteries.
Alors on en trouve aussi plusieurs versions dans un livre qui a été réédité d'ailleurs par Vent du Morvan, c'est les recettes morvandelles de la Mélie de Château-Chinon, derrière laquelle se cache en fait un érudit responsable d'un musée.
Gautron du Coudray.
Oui, c'est ça. Directeur du musée de Clamecy en 1926. Alors, il y a les fameux crapiaux, Philippe Bertrand.
Alors, les crapiaux.
Incontournables.
Alors, les crapiaux, c'est pareil. Suivant les coins du Morvan, c'est le crapiaux, le grapiaux, le crêpel, le criper. Enfin, voilà. Donc, suivant les coins du Morvan. Mais ça désigne toujours cette espèce de crêpe, hein, une crêpe qui est faite essentiellement avec de la farine de blé noir, de sarrasin. On pouvait le faire aussi avec, ou on peut le faire aussi avec de la farine de froment, de blé, tout simplement. Et c'était un des aliments de base aussi, salé. Bon, certains peuvent le manger aussi avec de la confiture, mais c'était un aliment qu'on pouvait aussi transporter quand on allait travailler dans les champs ou dans les bois. on pouvait transporter le crapiaud facilement dans une musette pour faire son casse-croûte de midi.
Alors il y a la beurre saude.
Alors les beurres saudes.
Alors je dis pareil. Ça parce qu'effectivement il y a un restaurant à Nitry dans Lyon qui s'appelle la beurre saudière.
Oui, oui. Eh ben les beurres saudes c'était aussi des parties du cochon qui étaient grillées, qui étaient des petits morceaux de gras. Hein, qui était grillé, puis qu'on pouvait mettre aussi dans la pâte pour faire le crapiaud.
Voilà. Alors évidemment, on pourrait en décliner un très grand nombre de ces recettes caractéristiques. Oui. Il y a la tarte à la semoule.
La tarte à la semoule, la galette à la semoule, oui. Ah ben ça, c'est un classique aussi qu'on mangeait, la galette au pruneau aussi, qu'on mangeait notamment pour la fête patronale ou pendant les battages, hein, quand les battages avaient lieu, qu'il y avait des grandes tablées, donc les femmes préparaient beaucoup de galette à la semoule.
Puis un très beau dossier, moi j'y étais très sensible, mais parce que c'est un insecte que j'adore, c'est le dossier sur les mouesses.
Les mouesses. Oui.
Les mouesses, c'est les mouches à miel.
La mouche à miel, avant, sous l'Ancien Régime,
avec
on
la
parlait
beauté de ces ruches artisanales qui sont et qui ont malheureusement totalement disparu.
Il faut visiter, pour ceux qui s'intéressent à ce type de vannerie, il faut visiter le petit musée de Menser, qui se trouve au sud de Saulieu, c'est une enclave de la Côte d'Or,
c'est
qui
ça,
est dans
hein.
la Nièvre, et dans l'ancienne salle de classe, il y a un beau musée qui est consacré à cette vannerie de paille de seigle dont on faisait notamment les ruches.
Enregistré le 22 février dernier, lors de la 3e édition du Salon du Livre Régional de Chalot, Philippe Berthe-Langereau. À notre micro, Philippe Berthe-Langereau qui signe tous les articles du hors-série de Vent du Morvan intitulé « Se nourrir dans les fermes du Morvan ». Nous allons marquer un nouvel intermède musical et puis nous reviendrons avec Philippe Berthe-Langereau sur d'autres aspects de cette alimentation dans le Morvan. On reviendra notamment sur les satignes, les châtaignes, et puis nous aurons aussi l'occasion avec lui d'évoquer la réapparition du loup dans le Morvan. Si vous le voulez bien, pause musicale sur Radion dans Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Tout de suite, c'est Délit de mélancolie, interprété par Elia. Merci d'être avec nous.
Yeah.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous accompagner jusqu'à midi pour le compte-rendu de la troisième édition du Salon du Livre Régional de Chalon. Nous allons retrouver Philippe Berthelangereau qui signe tous les articles du hors-série de Vent du Morvan consacré à l'alimentation dans les fermes du Morvan. Et maintenant, nous allons effectivement parler avec lui de la châtaigne. Philippe Berthelangereau, enregistré le 22 février dernier à Chalon dans la Nièvre. Alors, la châtaigne a aussi son importance.
Alors, la châtaigne a eu son importance, mais plutôt dans le sud du Morvan. La région de Saint-Léger-sous-Beuvray, vers le mont Beuvray, etc. Là, il y a encore des vieux châtaigniers. Beaucoup, hélas, ont été coupés ou sont morts parce qu'ils sont victimes d'une maladie qui s'appelle l'encre. Parce que le châtaignier, c'est un arbre qui dépend beaucoup de l'homme. C'est-à-dire que c'est même s'il forme des forêts, il faut qu'il soit régulièrement taillé pour enlever les branches mortes. Sinon, se développe le champignon de l'encre qui fait mourir l'arbre. Alors, on a effectivement beaucoup utilisé la châtaigne dans ces parties du Morvan, là au sud.
Alors, on va terminer avec cette thématique-là, c'est celle de la chasse et de la pêche. Un petit mot, Morvan... produit est riche en ce sens.
Oui, le sanglier autrefois était plutôt rare dans le Morvan. Il a été réintroduit, mais sa prolifération beaucoup râle parce qu'il y a beaucoup de sangliers. Mais il faut dire que c'est l'homme et l'homme notamment l'homme des campagnes qui en est responsable, parce que si les laits, donc les femelles sangliers peuvent faire jusqu'à 3 portées par an de marcassins, c'est parce qu'elles ont été pendant des années, je crois que c'est interdit maintenant, mais elles ont été ce qu'on dit agrainées, c'est-à-dire que des chasseurs mettaient du maïs pour nourrir les sangliers sauvages, et ça effectivement, ça a permis une multiplication des portées, et on n'en est pas envahi, mais presque. Et c'est comme le chevreuil qui existait très peu autrefois. Alors là, il y a eu des bagues qui ont été distribués pour les quand on les tue, on est obligé de mettre une bague de façon à réglementer cette chasse. Mais tous ces animaux-là autrefois existaient en plus petit nombre dans le Morvan. Il y avait surtout, puisqu'il y avait beaucoup de cultures de céréales, il y avait beaucoup plus de lièvres, de perdrix, d'animaux qui se nourrissent avec les céréales, que maintenant il y en a effectivement. Le lièvre, c'est un animal qui est relativement rare dans le Morvan, et puis quant à la perdrix, elle a pratiquement disparu.
Alors on va terminer, histoire de faire frémir nos auditrices et auditeurs, Philippe Berthelangereau, le retour du loup dans le Morvan.
Alors le retour du loup, oui. Alors,
c'est une réalité ou c'est un fantasme?
C'est une réalité, et attention, le loup n'a pas été réintroduit en France comme certains le disent. Il est venu parce que l'Italie, c'est un pays où il y a une forte population lupine, comme l'Espagne d'ailleurs, alors que la France, on l'avait éradiqué pratiquement avant la guerre de 1914-18. Mais le loup est revenu, puisque le loup ne connaît pas les frontières des pays, le loup est revenu par les montagnes des Abruzzes en Italie, et il est revenu progressivement s'installer d'abord dans le Mercantour, qui est un massif montagneux dans l'arrière-pays niçois, et de là, depuis 1992, c'est la période, l'année où on a constaté qu'il y avait les premiers loups revenus en France, et depuis, il y a plus de 30 ans maintenant, donc le loup a investi de nouveaux territoires, et notamment le Morvan, ce qui n'est pas sans causer des problèmes pour les éleveurs, notamment. Le problème n'a pas été résolu encore. Le loup est un animal sauvage, c'est un animal qui fait partie de la faune traditionnelle de la France et puis de plusieurs pays européens.
Bon, on est loin de la bête du Gévaudan.
On est loin de la bête du Gévaudan pour le moment, oui.
Philippe Berthelangereau, enregistré le 22 février dernier lors de la troisième édition du Salon du Livre Régional de Chalon. Je rappelle que Philippe Berthelangereau est l'auteur du dossier « Se nourrir dans les fermes du Morvan ». C'est un hors-série de Vent du Morvan paru l'été 2025, mais qui est toujours disponible et que vous pouvez vous procurer en le commandant sur le site internet de Vent du Morvan, ou alors vous pouvez également écrire à Vent du Morvan, 2 Place de la Bascule, 71 550 à Anneau. Je vous donne également le numéro de téléphone de Vent du Morvan, 03 85 52 07 90, permanence le mardi. Philippe Berthelangereau, que nous avons donc enregistré lors du Salon du Livre de Chalot, nous allons marquer un nouvel intermède musical et ensuite nous vous ferons entendre un entretien avec le journaliste du Journal du Centre, Bertrand Hiverneau, qui revient sur une affaire judiciaire marquante, notamment à Château-Chinon. Il est l'auteur d'un essai judiciaire qui a pour titre « Le dentiste du Morvan, un fait divers glaçant sur fond de désert médical » paru aux éditions de Boré courant mai 2023. C'est cette affaire de ce dentiste hollandais installé en 2008 à Château-Chinon et qui a abîmé les dents et les bouches d'un très grand nombre de patients jusqu'à ce que cela débouche sur un procès qui a eu lieu à Nevers en 2016. C'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Merci d'être avec nous tout de suite. Cheerleader par Félix Jaén. Et on revient juste après avec Bertrand Hiverneau pour Le Dentiste du Morvan, enregistré lors de la troisième édition du Salon du Livre Régional de Chalot.
Motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there. Cheerleader, she is always right there when I need her. She walks like a model, she grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Toujours sur Radio, et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre rendez-vous littéraire. Je vous rappelle que nous vous proposons aujourd'hui la première partie du compte-rendu de la troisième édition du Salon du Livre Régional de Chalot qui s'est tenu le 22 février dernier. Et nous avons rencontré le journaliste nivernais Bertrand Hiverneau qui est chroniqueur judiciaire au quotidien Le Journal du Centre et qui a fait paraître un essai judiciaire intitulé « Le dentiste du Morvan » avec ce sous-titre « Un fait divers glaçant sur fond de désert médical. C'était aux éditions de Boré, courant mai 2023. Et il revient sur cet incroyable fait divers et sur l'affaire judiciaire du dentiste Jacobus Van Nierop dans le Morvan. Des dizaines de patients ont été victimes de ses soins entre 2008 et 2012, où il exerçait à Château-Chinon dans la Nièvre. Tout de suite, faisons connaissance avec Bertrand Hiverneau, enregistré le 22 février dernier lors du Salon du Livre de Chaillot.
Je m'appelle Bertrand Hiverneau, je suis journaliste au Journal du Centre. Je suis basé à Nevers, où je m'occupe plus particulièrement de la chronique judiciaire.
Alors justement, cette passion pour le monde judiciaire a nourri un essai, une chronique judiciaire sortie aux éditions de Boré en mai 2023 et qui a pour titre « Le dentiste du Morvan », sous-titré « Un fait divers glaçant sur fond de désert médical ». Alors, bien sûr, je vais vous redonner la parole, c'est inévitable. Qui est donc ce dentiste du Morvan ? Dans quel endroit du Morvan nous trouvons-nous ? Et qui est l'acteur de ce qui va devenir une affaire qui médiatiquement va être traitée un peu plus tard au plan national ?
Alors l'affaire se déroule à Château-Chinon, mais l'acteur principal vient des Pays-Bas. Il s'appelle Jacobus Van Nierop, c'est un dentiste qui est recruté parce qu'à Château-Chinon, à ce moment-là, il n'y a plus de dentiste. Donc ils se mettent en quête d'un dentiste en France, ils n'en trouvent pas, ils vont en chercher un à l'étranger. Et ce qu'on appelle un chercheur de tête les met sur la piste de ce dentiste néerlandais. Donc il vient, il s'installe, tout le monde est très content.
On imagine l'enthousiasme, enfin un dentiste pour Château-Chinon et ses environs.
Exactement, il fallait aller jusqu'à Autun pour trouver un dentiste qui ne prenait pas tout le monde. On connaît les routes du Morvan, elles ne sont pas faciles, surtout l'hiver. Donc quelqu'un qui arrive à Château-Chinon, un point un peu central, tout de suite sa salle d'attente se remplit.
Et les collectivités se réjouissaient aussi.
Ah oui, il y a eu un accueil royal, des conditions d'installation qui étaient royales. Royal elle aussi, exonération d'impôts, un cabinet qui était financé de toutes parts. Donc, parfait, tout est pour le mieux dans le meilleur du monde, sauf que...
C'est là que ça commence à déraper.
C'est-à-dire que ce n'était pas un dentiste tout à fait comme les autres. Il avait un problème avec l'argent. Il en voulait beaucoup, il en dépensait beaucoup. Donc il s'est mis à arnaquer la sécurité sociale en déclarant des soins qu'il ne réalisait jamais, en surfacturant d'autres soins. Et puis surtout, il ne travaillait pas bien, pas dans des bonnes conditions d'hygiène, pas avec les bonnes connaissances médicales, pas avec les bonnes pratiques, ce qui a fait qu'il a fait énormément de dégâts qui se font encore ressentir aujourd'hui.
Alors, il était bien de formation, il était réellement dentiste.
Il a un diplôme de dentiste aux Pays-Bas. À un moment, on a cru que c'était un arcandier de bout en bout, qu'il n'était même pas dentiste. Il s'avère qu'il a un diplôme de dentiste.
C'était donc pas un imposteur, c'était bien un dentiste, mais très mauvais dentiste.
C'était un dentiste, il a été dentiste aux Pays-Bas, et s'il en est parti, ce n'était pas pour rien, c'était parce qu'il avait déjà commencé à faire des problèmes là-bas, déjà commencé à escroquer, déjà commencé à mal soigner, et qu'à un moment, il a pris la tangente. Et il a cherché une solution de repli, il l'a trouvé dans le Morvan. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune communication entre les Pays-Bas et la France sur son passé.
Donc il est arrivé, Jacobus Van Nierop, dentiste hollandais, arrive à Château-Chinon en 2008. Le procès, lui, se tient en 2016. Et alors, vous prenez connaissance de cette affaire et du dossier, et ça a dû vous passionner pour que cela aboutisse à un livre.
Moi, quand je prends connaissance de l'affaire, il a fermé son cabinet depuis quelques mois. Et des victimes commencent à se réunir, à former un collectif. Et elles n'ont aucune réponse qui les satisfait. C'est-à-dire que l'ordre leur dit « vous faites des procédures, puis on verra, on examinera vos procédures ». Les gendarmes leur disent « Vous vous rendez compte, déposer plainte contre un dentiste, ça se fait pas comme ça, ça va se retourner contre vous. » Donc ils se sentent désarmés et ils se disent « L'union fait la force » et ils créent un collectif. Et au bout de quelques temps, ils se disent « Pour avoir de l'écho, il faut qu'on passe par les médias. » Donc des membres de ce collectif contactent le Journal du Centre. Et ce jour-là, on m'envoie les rencontrer. Et donc, à partir de là...
Vous êtes méfiant ?
Non, absolument pas. Non, non, des gens veulent nous parler, on les écoute, ça fait partie de notre métier. On est de la presse quotidienne régionale, c'est-à-dire on est au contact de la population, on va les voir, on raconte leurs histoires, on est là pour la suite, voilà, on est toujours... À portée de baffe, comme disent certains journalistes. Donc, bon, c'est une expression un peu dure, parce que des fois aussi, on a des mots gentils qui nous sont dits, quand même. Mais voilà, on est vraiment au contact de la population. Donc, au départ, je vais les voir. Je ne me méfie pas, non. Et puis surtout, ils m'apportent des pièces immédiatement. C'est-à-dire que certains d'entre eux ont déjà fait réaliser des expertises, et les expertises sont effarantes. Donc, tout de suite, on sent au journal qu'il y a quelque chose. C'est pas des fous qui se plaignent de leur dentiste. C'est vraiment, il y a quelque chose derrière, quelque chose qui cloche. Et puis, on fait un premier article, un deuxième, et là, c'est la boule de neige. C'est-à-dire qu'au collectif, ils étaient 20, 30 la semaine d'après, 40 la suivante, et ils se retrouvent au bout de 2 mois à être 200. Donc, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment un fait divers qui était d'ampleur. C'était pas un cas isolé, ce n'était même pas 10 cas isolés, c'était un mode opératoire.
Alors, on peut considérer qu'il y a combien de réelles victimes ? Parce que il y a celles qui se sont manifestées, qui ont peut-être abandonné les poursuites en cours de chemin parce que c'est tellement long et décourageant. Mais est-ce qu'on peut savoir combien, allez, on va dire pour faire simple, combien de bouches ont été massacrées par ce dentiste néerlandais accueilli à Château-Chinon en 2008 ?
Il a eu entre 3000 et 4000 patients. Il y en a eu 200 qui se sont manifestés à un moment pour s'en plaindre. Et il y en a eu une centaine qui sont allés jusqu'au procès. Entre-temps, il y en a qui se sont découragés. Sur allez, 3500, il y en a sont tous eu un millier, deux milliers qui n'ont eu aucun problème avec lui. D'autres qui ont eu sans doute des problèmes mineurs. Mais il y en a eu, je suis convaincu, qu'il y a eu plusieurs centaines de victimes ou qui n'ont pas été parce qu'elles n'ont pas... Elles sont mortes avant, elles n'ont pas eu le courage de faire les démarches, elles n'ont pas été en capacité de faire les démarches, parce qu'on parle de populations fragiles. Il y avait des très vieilles personnes, il y avait aussi des gens qui étaient en institut. Il était aussi le dentiste de personnes handicapées, de personnes sous curatelle. Donc, c'est pas facile pour ces personnes-là de que quelqu'un s'occupe d'elles pour faire ces démarches. Donc, on ne saura jamais combien il y en a eu. On sait qu'il y en a qui ne s'en plaignent pas. On a eu ces retours aussi au journal, hein, des gens qui se sont dit « Non, non, moi, il m'a très bien soigné. » Mais vu les centaines qui disent le contraire, on s'est dit que celle-là avait eu de la chance.
Alors, le procès a lieu en 2016 à Nevers.
À Nevers.
À Nevers. Et vous, avant le procès, vous avez donc rencontré des victimes, des enquêteurs, des magistrats et aussi des avocats, et notamment l'avocate ou l'avocat de Jacobus van Nierop.
Oui, oui, son avocate qui nous a accordé une interview un peu avant le procès, un peu malgré elle aussi, non pas que nous l'ayons forcé, mais à un moment, il se disait plein de choses parce que l'affaire était passée au national, donc des journalistes de partout accouraient, d'ailleurs pas que de France, puisqu'il y en avait aussi des Pays-Bas, et... À aucun endroit on entendait la parole de la défense. C'est une avocate que je connaissais depuis longtemps, qui est quelqu'un de très discret, de très professionnel. Et elle a dû se faire violence un moment pour prendre la parole pour le dentiste, essayer de ramener un petit peu de justesse sur certains propos qui étaient exagérés. Et elle l'a fait avec moi, oui. Donc elle m'a rencontré et on a fait cette interview. Et depuis, je lui parle régulièrement de cette affaire. On en rediscute. C'est une affaire qui l'a marquée elle aussi parce que c'était pas commun, c'est sûr.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le dentiste du Morvan, avec ce sous-titre Un fait divers glaçant sur fond de désert médical, donc paru en mai 2023 aux éditions de Boré. Évidemment, c'est pas un roman, hein, c'est un drame terrible. Alors, procès en 2016 à Nevers, et le dentiste est reconnu coupable et il est condamné.
Il est condamné à 8 ans de prison, ce qui est énorme. Pour un professionnel de santé, voilà. L'ordre ne s'attendait pas du tout à une peine comme ça. C'est une peine lourde et c'est une peine qu'il accepte tout de suite. Il ne fait pas appel parce qu'il a qu'une envie, c'est de rentrer et finir sa peine aux Pays-Bas. Donc, alors que son avocate, je pense, lui conseillait, ça c'est de l'ordre de la confidentialité entre elle et lui, mais je pense qu'elle lui a conseillé de faire appel et il a refusé. Il voulait en finir, il voulait finir sa peine aux Pays-Bas. C'est ce qui s'est passé. Environ un an et demi après le procès, il a obtenu son transfert aux Pays-Bas et il a fini sa peine là-bas.
Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. En tout cas, il a purgé sa peine.
Il est libre. Il a fini sa peine dans un monastère, en une forme de semi-liberté, et ensuite une liberté totale, et depuis il n'a pas fait parler de lui.
Est-ce qu'il y a une autre affaire qui pourrait donner... qui pourrait donner un autre ouvrage, parce que malheureusement les drames ne manquent pas en justice.
Eh ben heureusement, il y en a pas pour ma part, je vais dire heureusement, parce que du coup je n'ai jamais rencontré une affaire de cet ordre. Il y avait aussi une particularité dans cette affaire, c'est que je venais d'arriver à Nevers quand je l'ai commencé, donc je l'ai vu du début à la fin, ce qui dans la carrière d'un journaliste n'est pas si fréquent, parce qu'on est des fois un peu nomade, donc on arrive au milieu d'une affaire, on fait la fin, ou on fait le début et on part avant. Là, je l'avais fait du début à la fin, donc j'avais envie de la raconter du début à la fin. Et pour l'instant, aucune autre affaire de cette ampleur ne s'est présentée à moi, et j'ai envie de dire tant mieux.
À l'instant, Bertrand Hiverneau, enregistré le 22 février 2026 lors du Salon du Livre de Chaloux. Je rappelle qu'il est chroniqueur judiciaire au Journal du Centre et qu'il signe aux éditions de Bourré un essai, Le dentiste du Morvan, sous-titré Un fait divers glaçant sur fond de désert médical. Il revient donc sur l'installation, vous l'avez compris, de ce dentiste hollandais recruté et installé à Château-Chinon en 2008 avec ce procès en 2016. C'est donc à découvrir. Je rappellerai aussi le hors-série de Vent du Morvan, dont l'intégralité des articles est rédigée par Philippe Berthelangereau, que vous avez pu entendre dans notre wagon livre aujourd'hui sur Radion. Se nourrir dans les fermes du Morvan. Un très beau document riche et densément illustré, toujours disponible en librairie ou dans les maisons de la presse. Et puis si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le commander via le site internet du magazine associatif Vent du Morvan. Concernant Vent du Morvan, je redonne l'information que j'ai déjà partagée, à savoir que c'est Vent du Morvan qui va reprendre la fête du livre et des médias à Anneau, en Saône-et-Loire. Cette fête du livre aura lieu le samedi 18 juillet de 10h à 18h à la salle des fêtes et également sous la grande halle. Je vous donne rendez-vous samedi prochain 11 avril, toujours à 11h sur l'antenne de Radion, pour la deuxième et dernière partie du compte-rendu du 3e salon du livre régional de Chaloux. Nous vous ferons alors entendre Noël Renaud pour Nourrice du Morvan, et d'ailleurs Noël Renaud qui a travaillé durant plus de 45 ans sur le phénomène des nourrices du Morvan. Et elle s'intéresse aussi à ce phénomène des nourrices, notamment en Italie, en Espagne, mais aussi lointainement à l'île de la Réunion. Et puis des noms prestigieux d'ailleurs viendront, puisque ces nourrices du Morvan ont allaité et se sont occupées d'enfants de grandes familles, souvent connues, par exemple les de la Tour d'Auvergne, la famille Eiffel, de Rothschild, de Coubertin, Dreyfus ou de Bernice. C'est à suivre samedi prochain dans Wagon Livre. Samedi prochain également, toujours rencontré à Chaloux, nous tendrons notre micro à Marc Potet, qui a écrit un ouvrage consacré aux inconnus célèbres de Domcy-sur-Cure. Domcy-sur-Cure, village de Lyon, aux confins de la Nièvre, à quelques kilomètres de Vézelay. Et effectivement, nous aurons l'occasion avec lui de redécouvrir certaines figures de ce petit village de Domcy-sur-Cure qui, finalement, ne doivent pas être oubliées. Et vous y apprendrez notamment que le chanteur Serge Gainsbourg a failli acheter un moulin sur la commune de Domcy-sur-Cure. Et puis, nous reviendrons avec le professeur Jean-Louis Mucchielli sur l'amour que le peintre Camille Corot avait pour le Morvan, car le peintre Corot a beaucoup séjourné dans le Morvan, notamment à Lormes, mais aussi dans cette petite commune de Saint-André-en-Morvan dont il a peint l'église. Nous en saurons un petit peu plus samedi prochain dans Wagon Livre sur Radion. Si vous avez manqué l'émission d'aujourd'hui, vous la retrouvez en podcast sur yannickpetit.fr. Merci de votre écoute attentive, curieuse et de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine pascal. Au revoir et à samedi prochain.